Il y a une halakha dans Tisha B'Av que on ne dit pas les tachanonim, on ne dit pas les supplications qu'on dit normalement après la Amida, parce que Tisha B'Av est appelé Moed. Moed, comme les autres Moadim, les Moadim de la Torah. Les Moadim de la Torah, c'est les Shalosh Regalim, les trois fêtes Pessah, Shavuot et Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Ce sont des Moadim. Dans le mot Moadim, on pourrait traduire ça par des rendez-vous. Alors, c'est un peu paradoxal de considérer que Tisha B'Av est un Moed dans la mesure où justement à Tisha B'Av, ce qui s'est passé, ce qu'on commémore, ce qu'on essaie de revivre, de réactualiser, c'est le contraire d'un rendez-vous, dans un rendez-vous de personnes où des personnes se rassemblent. Et à Tisha B'Av, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est justement séparé. Il y a justement eu séparation entre le Klal Israël et la Shrina et la présence divine qui n'était plus dans le Beth Amikdash comme elle l'était auparavant. Et alors, le Rav Volbeï ramène au nom de son maître qu'il existe des Moadim, rendez-vous, et puis il y a un Moed, qu'il appelle lui un Moed de Rihouk, un Moed d'éloignement. C'est contradictoire dans les termes. Mais on va voir ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut dire de ce Moed de Rihouk, étant donné que il y a une fonction à Tisha B'Av, dont on a déjà un tout petit peu parlé hier également, c'est que c'est vrai qu'on pratique le deuil, mais que ce deuil-là, je rappelle, ce deuil-là n'est pas comparable au deuil qu'on pratique pour la disparition d'un proche, dans la mesure où, dans la disparition d'un proche, le deuil vient de ce que cette disparition est définitive. Alors que la disparition du Bet Amikdash, la disparition de la présence divine dans le Klal Israël, n'est pas définitive, et que justement, le processus de deuil et le jeûne sont des processus qui ont pour but d'entamer un rapprochement. C'est-à-dire qu'à la fois on entérine, à Tisha B'Av, on entérine le fait que, bon, ça y est, c'est une question de... Bon, ça s'est passé. Mais maintenant, il faut recommencer. Il faut recommencer, il faut reconstruire. Et nous traduisons ça dans la halakha aussi, dans la mesure où le jour même de Tisha B'Av, le deuil complet, le fait de ne pas s'asseoir en hauteur, sur une chaise normale, etc., tout ça, hein, comme on le voit maintenant, on ne le pratique que jusqu'à Hatzot, que jusqu'à la mi-journée. Et puis ensuite, même, on prépare la maison après la mi-journée. Alors, ça vient probablement du fait que les Bnei Israël ne peuvent pas vraiment vivre des situations de deuil complet, sauf les situations absolument extrêmes. Même toute une journée, on n'est pas capable d'être en deuil, quand ce n'est pas vraiment le deuil d'un proche. Et ça vient plus précisément, je pense, pour montrer que à Tisha B'Av, il se joue un double phénomène, c'est-à-dire à la fois une prise de conscience de ce qui c'est vrai, ça y est, c'est... On est dans une situation où il n'y a plus de présence divine. Mais maintenant, à nous de commencer quelque chose qui va permettre à cette présence divine de se retrouver là, d'être à nouveau une présence d'Hachem parmi les Bnei Israël. On peut dire qu'il y a déjà une allusion à cela dans le fait que la Gemara nous rapporte que, vous savez, sur le Echal, premier Beth Amikdash, sur le Echal, sur le sur le Aaron HaKodesh, plutôt, il y avait ce qu'on appelle des kruvim, traduit par des chérubins. Il y avait des formes avec un visage humain, enfin une forme humaine. Et ces deux, il y en avait deux, qui étaient mobiles sur leur socle et qui se faisaient plus ou moins face. Ça veut dire, ils se faisaient complètement face quand le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu étaient en très bons termes. C'est-à-dire quand le Klal Israël faisait la volonté d'Hachem. Et si le Klal Israël se détournait, alors il y avait un Krouv, un des chérubins qui se détournait, et d'autres, l'autre se détournait de la même, du même angle, si vous voulez. Ce qui fait que lorsque nous nous détournions d'Hachem, nous nous retrouvions éloignés d'Hachem du double de l'angle, en fait. Parce que lui aussi se détournait. À ce moment-là, on voit très bien que il se passe quelque chose dont on a déjà parlé, c'est que d'une certaine manière, c'est notre conduite qui conditionne le rapport d'Hachem avec nous. Ça veut dire qu'Hachem, c'est marqué Hachem Tzilcha, Hachem est ton ombre. Ici, en fait, il réagit, et d'une certaine manière, on peut presque dire, nous gouvernons nous-mêmes le rapport qu'Hachem va entretenir avec nous. Qu'Hachem se laisse, en quelque sorte, dicter une forme de conduite par les hommes, on l'a vu dans d'autres shiurim, où on voit très bien qu'Hachem a, par exemple, laissé Avraham Avinu déterminer de façon décisive la façon dont le moment dont auquel nous sommes sortis d'Égypte. On est sortis d'Égypte au milieu de la nuit parce que Avraham Avinu avait déjà transformé la première moitié de la nuit en jour lorsqu'il est allé faire la guerre pour délivrer Lot. Et Hachem a dit, puisque toi tu as changé la nuit en jour, je changerai pour tes descendants la nuit en jour. Donc il y a effectivement Hachem, d'une certaine façon, nous met dans la situation de gouverner son rapport avec nous. Et là, à l'extrême, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la destruction du Beit HaMikdash, du premier Beit HaMikdash, la Gemara, dans Yuma, elle dit qu'au moment où les ennemis sont entrés, donc les Babyloniens sont entrés dans le Echal, Raou Akruvim, ils ont vu que les chérubins étaient tournés l'un vers l'autre. Ils se faisaient vraiment face. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, à ce moment-là, il y avait le plus grand degré de proximité possible entre HaKadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. Et ceci, dit la Gemara, ça montre la grandeur, en fait. Enfin, ce que la Gemara dit ici, c'est la grandeur de l'amour d'Hachem pour le clan d'Israël. Qu'au moment où, normalement, où les Bnei Israël font la volonté d'Hachem, bien évidemment, ils induisent que Hachem est aussi proche que possible d'eux, mais ici, et c'est une question initialement, comment se fait-il qu'au moment du Khurban, ça veut dire que les Bnei Israël se sont éloignés au maximum d'Hachem, eh bien, les deux Khurbim se font face. Ça veut dire, non seulement qu'Hachem s'est tourné vers les Bnei Israël, mais que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils sont aussi tournés vers Hachem. N'est-ce pas? Ça veut dire que les deux se font face. Donc, en fait, si les Bnei Israël, au cours du processus qui a mené à la destruction du premier Beit HaMikdash, se sont éloignés, se sont détournés d'Hachem, et qu'Hachem, en réponse, s'est détourné d'eux également, mais au moment du Khurban, tous les deux, si on peut parler comme ça, se sont fait face à nouveau. C'est tout à fait étonnant, en quelque sorte. C'est-à-dire que à ce moment-là, au lieu d'avoir l'éloignement maximum, qui est effectivement, disons, la marque de l'éloignement maximum, il y a éloignement maximum, mais pourtant ça ne se marque pas dans les Krouvim. Comme si d'une certaine manière, quelque chose s'est passé à ce moment-là. Comme si, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Gemara enseigne, elle le dit sur Titus, c'est-à-dire sur la destruction du deuxième Beit HaMikdash, mais enfin la chose est exactement la même. c'est que Rabbi Chaim de Volozhin explique dans le Nefesh HaChaim que ça n'a pas de sens que des gens puissent détruire le Beit HaMikdash. Si le Beit HaMikdash est la résidence divine, c'est un non-sens d'imaginer que les hommes peuvent détruire le Beit HaMikdash, comme on détruit n'importe quel édifice. C'est pas la prise de la Bastille, c'est quoi? C'est le Beit HaMikdash, c'est la résidence divine. Ça n'a aucun sens de dire que les hommes peuvent détruire le Beit HaMikdash. Alors comme je vous ai dit hier, en fait, le Beit HaMikdash, il a son pendant dans le monde d'en haut. Dans un monde supérieur, il y a un Yerushalayim Shel Ma'ala. Il y a aussi un, dans ce Yerushalayim Shel Ma'ala, il y a aussi un Beit HaMikdash Shel Ma'ala. Il y a aussi un Beit HaMikdash d'en haut. Et dans ce Beit HaMikdash d'en haut, bon, il y a aussi quelque chose qui correspond aux Korbanot. Et là où les Bnei Israël approchent des Korbanot, c'est ces processus de rapprochement avec Hachem, c'est Michael Sar Israël. Il y a un malach qui s'appelle Michael Sar Israël, Michael le prince d'Israël, qui lui est Makriv Korbanot. Qu'est-ce que c'est qu'il est Makriv, ou des Nefashot, etc., peu importe. En tout cas, il approche, quelque chose du même genre se passe. Et en fait, ce Beit HaMikdash, c'est l'intériorité, la spiritualité du Beit HaMikdash d'en bas. Mais Hachem dit, je n'entrerai dans le Beit HaMikdash d'en haut, dans la Yerushalayim d'en haut, que quand je pourrai entrer dans la Yerushalayim d'en bas. C'est-à-dire que quand dans cette ville d'Yerushalayim, il y aura à la fois la paix et la justice et la tzedaka qui régneront, comme elles ont régné à un certain moment. Et Hachem dit, je ne retournerai dans le Beit HaMikdash d'en haut que quand je pourrai retourner dans le Beit HaMikdash d'en bas. En Yerushalayim, c'est dit, ce n'est pas seulement sur le Beit HaMikdash, mais surtout Yerushalayim. C'est-à-dire que quand les rapports entre les êtres, entre les humains, entre les hommes, à Yerushalayim, sera un rapport tel que la Torah le veut, alors il y aura présence d'Hachem dans le Beit HaMikdash d'en haut, ce qui voudra dire qu'il est aussi en bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette présence d'Hachem dans le Beit HaMikdash d'en bas? Ben, c'est justement le fait que dans ce Beit HaMikdash, et par extension dans tout Yerushalayim, il y a des relations humaines qui sont comme la Torah les veut, c'est-à-dire des relations, des relations correctes, des relations de justice, de tzedaka, de emet, d'amour, de responsabilité l'un pour l'autre, etc. Ça c'est le Beit HaMikdash, il fonctionne comme ça. Alors, ce qui s'est passé, pour répondre à la question, mais comment est-ce que les hommes peuvent détruire le Beit HaMikdash? Les hommes peuvent détruire le Beit HaMikdash en détruisant le Beit HaMikdash d'en haut. Ce qu'on a dit à Titus, tu as brûlé quelque chose qui était déjà brûlé, tu as moulu du grain déjà moulu. C'est-à-dire, le Beit HaMikdash que tu as détruit, il était déjà complètement détruit. Parce qu'il a été détruit, ce qui a été détruit, c'est le Beit HaMikdash d'en haut. Et le Beit HaMikdash d'en haut, lui, il dépend totalement des actions des Ma'asim Tovim, de l'étude de la Torah, des Bnei Israël. Il n'y a que ça qui est important, c'est ça qui fait vivre ce Beit HaMikdash d'en haut. Étant donné que les Bnei Israël se sont mal conduits, ils ont détruit. Eux, ils le peuvent. Les seuls qui peuvent détruire le Beit HaMikdash, ce sont les Bnei Israël, eux-mêmes, parce que c'est leur Beit HaMikdash d'abord. D'accord. C'est le Beit HaMikdash, c'est la résidence d'Hachem parmi les Bnei Israël. Alors, par extension, ce sera celle d'Hachem dans le monde, mais concrètement, c'est la résidence d'Hachem parmi les Bnei Israël. Shachanti Betocham, c'est dit aux Bnei Israël. Mais on sait bien que le Betocham, qui a été dit sur le Mishkan, mais qui vaut pour le Beit HaMikdash, Shachanti Betocham, je résiderai parmi eux. Ce verset-là, on ne peut pas le lire tel qu'il est écrit directement, enfin, parce que sinon c'est une trivialité. Quand Hachem a dit au Bnei Israël, vous allez construire, c'était le Mishkan, c'est le temple en kit qu'on a construit dans le désert, il a dit, vous allez construire le Mishkan, et alors, ce serait, le Mishkan c'est, vous entendez bien, dans Mishkan, la même racine que Shochen, que Shechina, d'accord, c'est ma résidence, la résidence divine. Alors quand Hachem dit « et je résiderai parmi vous », c'est un pléonasme. Si on construit la résidence d'Hachem, ça veut dire pour qu'Hachem réside parmi les Bnei Israël. Donc les Chachamim ont entendu « Veshachanti betocham », c'est-à-dire on vient, c'est un pluriel, sinon on aurait pu dire Besharanti Betocho dans le clan Israël, mais ici c'est le Betocham, c'est-à-dire chez chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans le cœur de chacun. D'accord, il faut entendre ce que ça veut dire. Vous allez construire je vais dire Beth Amikdash pour les, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Vous allez construire le Beth Amikdash, et alors je résiderai dans le cœur de chacun. Alors peut-être il ne faut pas dire et alors, parce que si vous le construisez, alors je résiderai, mais c'est plutôt révélateur de ce que je réside dans le cœur de chacun. Vous ne pouvez pas construire le Beth Amikdash si je ne réside pas dans le cœur de chacun. C'est un préalable. Bon, ça veut dire qu'en vérité, le Beth Amikdash, c'est la cerise sur le gâteau. Le Beth Amikdash, il n'est que la cerise sur le gâteau. Quand il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de cerise. Il n'y a pas de lieu de mettre une cerise sur rien du tout. Et donc, ce qu'ont fait les Bnei Israël par leur conduite, par leur mauvaise conduite, c'est qu'ils ont détruit justement le Beth Amikdash d'en haut, donc il n'y a plus de Beth Amikdash en bas. C'est une coquille vide. Alors on a dit, oh, t'as brûlé, tu t'imagines. On a dit à Titus, mais c'est la même chose pour Nebuchadnezzar. Peu importe, ils se sont imaginés qu'ils ont détruit la résidence divine. Mais c'est un non-sens.
Si les Betocham, il y a besoin d'un Beth Amikdash encore ?
Non, alors, on n'a pas besoin, c'est pour nous, c'est un point de repère, en quelque sorte. C'est aussi un moyen... C'est un moyen de savoir qu'il y a vraiment un gâteau. Quelque part, quand est-ce que... Le grand problème, ça a été que... Le plus grave de tout, c'est pas tellement de faire des fautes. C'est de s'imaginer qu'on n'en a pas fait. D'accord ? Ce qui est grave, c'est quand on n'a pas de conscience des fautes qu'on a commises. Si on n'a pas conscience des fautes qu'on a commises, on ne peut pas faire tchouva. Il n'y a pas de retour possible. Les gens qui s'imaginent, moi je suis bien, je suis un type bien, ils ne feront jamais rien dans leur vie. Ils n'ont pas de raison de bouger. Et donc il y a un signe, en quelque sorte, qui marche que en tout ou rien. C'est un peu dommage qu'il ne marche qu'en tout ou rien. C'est-à-dire que quand il y a effectivement le Beth Amikdash, quand il y a le Beth Amikdash, c'est qu'on n'a pas encore tout perdu. Parce que probablement que le Beth Amikdash était déjà une coquille vide, déjà un peu avant sa destruction. Il fallait encore que quelqu'un vienne le détruire. Mais il était vide parce que les Israël ont complètement évidé l'édifice, il restait que cette coquille, puisque l'intériorité, ils l'ont détruit. Ils ont détruit cette intériorité. Donc, le Beth Amikdash vient pour nous montrer, manifester la présence divine, mais c'est pas lui qui est l'essentiel, en quelque sorte. Il n'est Beth Amikdash que lorsque... Il y a un Beth Amikdash d'en haut, c'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël se conduisent de façon que ce puisse être un Beth Amikdash. On va voir qu'il y a une possibilité de pratiquer les mitzvot, d'étudier la Torah, et le Beth Amikdash n'en est pas un. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Chinam, cause de la haine gratuite. Mais avant de dire qu'il a été détruit à cause de la haine gratuite, les Chachamim disent que dans le Bayit Sheni, dans le deuxième Beth Amikdash, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Bnei Israël, c'est la Gemara qui le dit, ils étaient oskim batorah, ils s'occupaient de Torah, ça veut dire la asok batorah, c'est ce qu'on doit faire, n'est-ce pas ? Ils étudiaient la Torah, ils en faisaient leur affaire de la Torah, et ils faisaient les mitzvot, et ils faisaient gminut chassadim. Ils étaient généreux, etc. Il y avait de l'entraide et tout ça. Et c'était vide. C'est possible que de faire tout ça. Et c'est vide. Il y a une façon de faire les choses, les Moussa appellent ça mitzvah tanashim melumada, de faire les choses machinalement, comme un rituel, mais dans lequel on n'est pas du tout investi. Il faut remarquer que, bien que les Bnei Israël se conduisent à ce moment-là très très mal, dans les deux Beth Amikdash, néanmoins, il n'a jamais rien manqué dans le fonctionnement du Beth Amikdash. On a toujours apporté les korbanot qu'il fallait. Si vous voulez, la mauvaise conduite d'Ebné Israël ne s'est jamais traduite par un défaut dans la Avoda. Il faisait ce qu'il fallait pour la Avoda. Jusque-là, toute fin, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc, ça veut dire qu'il s'imaginait avec ça, ben voilà, le Beit HaMikdash fonctionne, il ne peut rien nous arriver. Hachem est présent, il est, voilà, on lui donne ce qu'il veut. Pourquoi il s'en irait? Et en réalité, il n'y avait déjà plus rien, c'était déjà vide. Combien de temps avant ça a commencé, j'en sais rien. Mais assez longtemps avant. C'était vide assez longtemps avant. En fait, le Klal Israël, toute la Torah, hein, est là pour but de fabriquer une proximité entre Hachem et le Klal Israël. C'est parce que ce à quoi aspire le Klal Israël, c'est à ce fameux état de Dvekout. D'accord ? La Dvekout, c'est pas seulement un Dvekout, c'est pas seulement un morceau de musique. La Dvekout, c'est pas seulement des chants d'écoute, etc. C'est un état. Et cet état, c'est la proximité maximale qui existe entre le Klal Israël et Akadosh Baruch Hu. Et j'ai déjà dit, comme un peu partout, que cette proximité maximale, c'est coller et pas interpénétrer, pas fusionner. Il n'y a pas de fusion. Voilà la grande différence entre la mystique chrétienne et la mystique juive, par beaucoup d'autres, mais en tout cas, une des grandes différences, c'est que pour un mystique chrétien, son désir, c'est de se perdre dans la divinité. Ça n'existe pas chez les Bnei Israël. La divinité est impénétrable. On peut coller à la divinité. On peut s'approcher au maximum, mais on ne peut pas entrer, il n'y a pas de fusion possible. La fusion, c'est la mort, on disparaîtrait complètement. Dans la Dvekout, on ne disparaît pas. C'est Davouk, c'est collé, mais il y a deux parties, complètement distinctes. Et d'une certaine manière, même dans la Dvekout, il y a donc une distance. Elle est infinitésimale, peu importe, mais il existe une distance. Et ça, c'est fondamental. Il y a une distance entre le Créateur et la créature. La créature ne peut pas se perdre dans le Créateur. Pour nous, c'est un non-sens. Donc, le but de l'exercice, c'est d'arriver à cette extrême proximité, une courva, une proximité. La notion de Klal Israël, notion abstraite qui habitait au fur et à mesure des générations par des générations successives. Mais il y a ce moussag, cette notion de Klal Israël et la Torah sont les moyens que nous avons pour nous approcher d'Hachem, pour réaliser justement cette proximité. Et la Torah dit explicitement, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné cette Torah, dit la Torah n'est pas éloignée, enfin la présence divine, c'est la mitzvah en question que je te donne, lo bashamayim hi, lo me'ever elayam, c'est pas au ciel, c'est pas outre-mer, c'est aussi proche que possible, c'est beficha ou bilbavcha l'un soto, c'est dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la soto pour le faire. C'est aussi proche que possible. Ça dépend que de toi, c'est à ta portée. On sait bien que le Beit HaMikdash n'était pas là que pour qu'on apporte des corbanotes. Comme son nom l'indique, un corban, c'est un processus d'approche. La racine kouf rishbet, ça n'a rien à voir avec sacrifice. D'accord, ça a à voir avec karov, avec la proximité. C'est un processus d'approche. C'est un processus qu'on met en marche quand on est de facto, quand on est effectivement éloigné parce qu'on a fait des fautes, qui nous éloignent d'Hachem, ou quand on se sent éloigné, à tort ou à raison, peu importe, il existe des korbanot qu'on peut apporter, donc des processus qui m'aide à me rapprocher d'Hachem. Le Beit HaMikdash, essentiellement, il était le, on peut dire, le canal par lequel le flux des bontés divines, en quelque sorte, arrive dans le monde. Cet Ashra, quand il y avait Ashrat Ashrina, quand il y avait présence divine, ça voulait dire en quelque sorte que le canal était parfaitement ouvert. Il n'y avait pas de scorie, il n'y avait rien qui empêchait les choses de passer. C'est ça l'effet d'Ashrat Ashrina. Alors, ce qui s'est passé, justement, c'est que nous avons obstrué le canal. Nos actions ont obstrué le canal. En d'autres termes, Hachem est toujours là pour donner, mais il n'y a personne à la réception. Ou alors, on reçoit très mal, jusqu'à pas du tout. C'est nous qui obstruons nous par nos fautes, qui obstruons le canal, et qui faisons que nous n'avons pas ce que nous pourrions avoir. C'est jamais Hachem qui ne donne pas, en quelque sorte. Mais si vous voulez, il y a une espèce de feedback, c'est-à-dire que c'est comme si Hachem envoyait un message. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la réception? Dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de recevoir ce que je vais donner? Et Hachem va donner exactement ce que nous sommes capables de recevoir. Et si nous sommes incapables de recevoir, il n'envoie pas. Il envoie et puis ça se perd parce qu'on n'est pas capable de recevoir. C'est pas l'aide économique à l'Afrique, ou, etc. Il envoie exactement ce qu'on est capable de recevoir. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec tout au long de notre histoire, que ce soit avec le problème du Vaudor, avec l'histoire des explorateurs, etc. Voilà, il y a quelque chose que nous sommes malheureusement capables de faire et qui obstrue le conduit. Donc, on ne reçoit pas ce qu'on pourrait recevoir. Dans Chazal, on nous rapporte que quand Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le Beit HaMikdash, justement, quand il a décidé que voilà, ça n'a plus de sens qu'il y ait un Beit HaMikdash, c'est une coquille vide, alors il a dit, dit Chazal, tout le temps que je suis présent dans le Beit HaMikdash, les ennemis ne pourront évidemment pas le détruire, on ne peut pas détruire la résidence divine. Il faut donc que je me détourne, une expression standard, pour dire qu'il n'y aura plus d'Ashgaha, je ne suis plus là. Et d'autre part, je jure, dit Hachem, que je ne m'occuperai plus de ce Beit HaMikdash, de cette instance Beit HaMikdash, dès le moment où les ennemis seront venus, ils l'auront détruit, je ne m'en occuperai plus du tout, jusqu'à la fin de l'histoire. En d'autres termes, ça c'est dit sur le deuxième Beit HaMikdash, vraisemblablement, que voilà, le Beit HaMikdash a pu être détruit parce qu'Hachem s'en est retiré, parce qu'il n'était plus donc Beit HaMikdash, parce que l'Ibn Israël avait rendu la présence divine impossible dans le Beit HaMikdash d'en haut, par leur conduite. Et ce sont donc nos fautes qui ont détruit le Beit HaMikdash d'en haut, donc celui d'en bas. Et lorsque donc Akadosh Baruch Hu a décidé d'enlever sa présence divine, alors effectivement, Titus ou Nebuchadnezzar ont donc pu détruire le Beit HaMikdash, comme on a vu. À ce moment-là, les ennemis sont entrés dans le Beit HaMikdash, ils l'ont brûlé. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je n'ai plus de résidence dans le monde. La Kol Haaretz Lo Sheli, du coup, la terre n'est plus à moi. Et donc, je vais quitter la terre. Je quitte la terre complètement, j'abandonne le monde, en fait. Alors, évidemment, il faut comprendre pourquoi est-ce que Hachem dit, qui n'a plus de résidence, finalement les ennemis n'ont détruit que la résidence d'Hachem. La terre est là. Jusque-là, la présence divine, elle est partout. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement? Ok, il n'y a plus de Beth Amikdash. Je ne vous connais plus dans ce Beth Amikdash, alors du coup, il n'est plus sur la terre. Il n'y a plus de présence divine dans le monde. Ça veut dire que le lien entre Akadosh Baruch Hu et le monde d'en bas, en quelque sorte, qu'on appelle donc Ashrat Ashrina, présence divine, c'est seulement quand Akadosh Baruch Hu dévoile sa présence divine dans le monde. Ashrat Ashrina, ça veut dire qu'il y a dévoilement de la présence divine dans le monde. Les gens voient, de façon aussi claire que possible, qu'il y a une Ashgaha Pratit, qu'il y a une providence dans le monde. À ce moment-là, on peut se dire, bon, alors, il y a une providence, bon, voilà. On peut remonter à qui y a-t-il derrière cette providence, en fait. Comment se fait-il que les choses se déroulent de cette manière-là? À partir du moment où il y a le Khurban du Beth Amikdash et que Hachem enlève cette Shrina, cette présence du Beth Amikdash dans le Beth Amikdash du Beth Amikdash, alors il y a un Esther Panim, il y a en quelque sorte un détournement du visage divin, un désintéressement quasiment, enfin, ça tout se produit comme s'il y avait un désintéressement d'Hachem du monde, et donc on ne voit plus de présence divine dans le monde, c'est ce qu'on appelle Hachem. Donc Hachem dit, j'ai plus de résidence dans le monde, on ne me voit plus, en quelque sorte. Et Chazal disent que, présente les choses comme si Hachem pleurait, et disant, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait à détruire mon Beth Amikdash? Pourquoi, à cause d'Israël, est-ce que j'ai détruit le Beth Amikdash? J'avais fait un Beth Amikdash pour les Bnei Israël, maintenant qu'ils ont fauté, j'en suis revenu à la case départ, en quelque sorte. Je suis la risée des nations, parce que je n'existe plus. Mon peuple est complètement dispersé, je suis la risée des nations. Il y a donc un Chilul Hashem, une profanation du nom divin absolument extraordinaire. À ce moment-là, Chazal disent que il y a un ange qui est en charge de faire fonctionner le monde, en quelque sorte. On va voir plus, on dira un tout petit peu plus après. Cet ange s'appelle Métatron. Il s'est prosterné devant Hachem et il a dit, c'est moi qui vais pleurer et pas toi. Toi, tu ne dois pas pleurer, moi je vais pleurer à ta place. Et Akadosh Baruch Hu a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas me laisser pleurer? Je vais me retirer dans un endroit où tu n'as pas le droit d'entrer. Et je pleurerai dans cet endroit-là. Il y a un pasouk dans le Navi Yirmiya où Hachem dit qu'il y a un endroit qui s'appelle Bemistarim. Mistarim, c'est un endroit caché. Tivke Nafshi, mon âme va pleurer. Hachem dit, Ragmar en parle, il y a un lieu où Hachem pleure. Qui est ce Métatron? Quand Hachem a pardonné la faute du Vaudor, il a dit à Moshe Rabbeinu, « Hine anochi sholeach malach lefanecha » et je t'enverrai, j'envoie maintenant un malach devant toi. Donc vous allez être guidé désormais par un malach. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous serez comme les autres peuples. Vous aurez un Dieu qui va vous guider. Et il est très élevé, ce malach. C'est pas un, vous n'aurez pas un dieu comme tous les autres. Vous aurez le dieu ou le guide ou ce que vous voulez, le plus élevé qui soit. Parce que celui-là, Shmi Bekirbo, mon nom est en son sein. C'est-à-dire, il porte mon nom. Et cet ange-là, c'est Métatron, dont Chazal nous dit, Shmo Keshem Rabo. Le nom de Métatron, il porte le nom de son maître. C'est-à-dire, c'est lui qui actualise, en fait, le niveau le plus élevé de la guidance du monde par Akadosh Baruch Hu. En quelque sorte, Akadosh Baruch Hu guide le monde. Et ce qu'on en voit de la façon dont Hachem guide le monde, ce qu'on en voit de plus élevé, de plus abstrait probablement aussi, c'est Métatron. C'est ça qu'on dit. Le nom, c'est déjà un dévoilement, bien entendu. N'est-ce pas? Le nom d'Hachem, qu'il ait un nom, qu'il soit nommable, c'est déjà un dévoilement. C'est déjà... En fait, le Gaon explique que sur Hachem, on ne peut rien dire sur... Hu Itbarach, on ne peut pas dire Hachem. Hu Itbarach, sur lui, Itbarach, on ne peut rien dire du tout. On ne peut ni dire qu'il existe, ni qu'il n'existe pas, ni qu'il a un nom, ni qu'il n'a pas. On ne peut rien dire. Rien. Absolument rien. De dire qu'il a un nom, c'est déjà... Il se dévoile. Si vous avez quelqu'un a un nom, à quoi il sert le nom ? C'est-à-dire, il sert à être nommé. Donc c'est un dévoilement. C'est déjà un dévoilement. Les noms divins sont des dévoilements d'Hachem. Nous ne connaissons que ces dévoilements-là, bien entendu. Ce Métatron, donc, il nous dit exactement comment la Shrina, la présence divine, se manifeste dans le monde. Mais ce Métatron, son but, sa fonction au niveau le plus élevé parmi les anges, est justement ce dévoilement-là. C'est lui qui, en fait, nous enseigne comment sanctifier Hachem dans le monde. C'est lui qui dévoile ce qu'on appelle la gloire divine dans le monde. Là, c'est pas du tout évident. Qu'est-ce qui peut s'appeler sanctification d'Hachem dans le monde ? Vous voyez, par exemple, dire la louange d'Hachem. On pourrait s'imaginer, bon, ça c'est sanctifié, c'est formidable, on va dire la louange d'Hachem. Mais le problème, la Gemara le rapporte, d'un maître un élève devant son maître, qui a commencé à dire la louange d'Hachem. Il a énuméré tous les qualificatifs positifs qu'il pouvait imaginer, évidemment, pour dire la louange d'Hachem. Et quand il a eu terminé, son maître l'a regardé, il lui a dit, tu t'arrêtes déjà là ? Il a dit oui. Alors le maître lui a dit, nous, si Moshe ne l'avait pas dit, nous ne nous permettrions même pas de dire à quel Agadol, Agibor, Véanora. Ces trois choses que nous disons, on ne se le permet de le dire que parce que Moshe Rabbeinu nous l'a dit, parce que c'est dans la Torah, si vous voulez. Si ce n'était dans la Torah, on ne se permettrait pas de dire. Parce que s'arrêter dans la louange, c'est faire comme si, voilà, j'ai tout dit. On a tout dit. Et donc, c'est faire comme si Hachem pouvait être circonscrit par les louanges qu'on a dites. Voilà, j'ai fait le tour. C'est un Chilul Hachem. On ne peut pas faire le tour. Et donc, dire des louanges, c'est quelque chose qu'on n'a pratiquement pas le droit de dire. Certains disent que les brachot que nous faisons quand nous disons les psuké des Imra, Baruch She'amar et la bracha d'Ishtabach à la fin, c'est en quelque sorte une permission qu'on demande à Hachem de dire une louange qui sera finalement finie. Bon, c'est fini. On va dire un certain nombre de chapitres de Tehilim en louange, mais c'est un scandale de s'arrêter. Donc on ne peut pas commencer. Donc on fait une bracha qui correspond à une demande, en fait, Hachem, de nous pardonner, en quelque sorte. On a besoin de dire la louange d'Hachem, mais de dire la louange, c'est quasiment un Chilul Hachem. Alors, on demande la permission de le dire quand même. C'est pour ça que certains, par exemple, avaient l'habitude de... La Shira, ils ne la disaient pas entre Baruch She'amar et Yishtabach, mais en dehors, parce que c'est pas une louange, on raconte quelque chose. Quoi. C'est une Shira. Shira, c'est autre chose. Quand c'est une Shira, vraiment. Donc, c'est pas du tout évident, si vous voulez. Et donc, de la même manière, apporter quelque chose à Hachem, c'est un scandale. C'est faire comme s'il avait besoin de quelque chose. C'est faire comme si on pouvait lui apporter quelque chose. c'est donc diminuer la gloire divine. Alors c'est seulement parce qu'Hachem nous a permis de le faire que nous pouvons le faire. Il faut une permission divine pour pouvoir apporter quelque chose à Hachem. Hachem est allé dans l'autre sens, il y a des expressions qui sont étranges. L'achmi, mon pain. Comme si quand on apportait le korban, le tamid ou un korban, c'était son pain, le pain d'Hachem. Le pain, c'est quelque chose, c'est une nourriture pour celui qui en a besoin. Hachem n'en a pas besoin. Par définition, il n'en a pas besoin. Vous comprenez? Donc, dire la louange, il nous faut quelque part une permission. Et la permission, elle doit venir du plus haut. Alors, elle vient de Métatron qui nous dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, un des dévoilements d'Hachem, c'est la Torah. Dans la Torah, il y a dévoilement de ce qu'Hachem accepte comme korban. C'est un dévoilement. Sinon, on n'aurait pas eu le droit d'apporter un korban. Comprenez? Et donc, tout le service d'Hachem, c'est Métatron qui... C'est l'ange qui est placé tout en haut, qui a la charge de nous dévoiler ça. De nous dire ce que nous pouvons faire. Lorsque Hachem limite ce qu'il donne au monde, c'est pas qu'il ne peut pas plus, il peut pas donner plus, ou qu'il y a pas de limitation dans quelque sorte de son point de vue. C'est simplement que les récepteurs ne peuvent pas recevoir plus. C'est un défaut des récepteurs. Nous recevons ce que nous recevons. Nous recevons quelque chose de limité, mais c'est seulement parce que nous ne recevons qu'en fonction de notre préparation. C'est pas que... C'est un problème même qu'Hachem accepte de nous donner de façon limitée. Parce que ça apparaît comme si il ne pouvait pas donner plus. Il y a toujours un chilul Hachem dans toute cette affaire-là. Je crois que c'est le Friedländer qui rapporte au nom de son maître, Rav Dessler, que Rav Dessler donnait comme exemple de cette situation celle d'un homme qui est dans sa maison et à l'extérieur le soleil brille, il chauffe de toute sa force, si vous voulez, mais dans la maison il n'y a pas d'effet parce qu'on a tiré complètement les volets. On a fermé les volets, on a tiré les rideaux. C'est pas que la lumière, elle est là, elle lui, mais nous nous sommes mis dans une position de ne pas pouvoir la recevoir. C'est ça, l'argument de Métatron, c'était ça. Quand il dit « c'est moi qui vais pleurer », il veut dire « le pleur, ce doit être un pleur du récepteur et pas de l'émetteur ». Mais du point de vue de l'émetteur, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de pleurs, il dit « moi je suis déjà du côté du récepteur, donc je peux pleurer moi ». Du côté du récepteur, c'est normal qu'on pleure. Or, Akadosh Baruch Hu lui répond, lui dit non, c'est moi. Le Ramchal, dans le Dat Funot, il explique le pasuk qui est Yichvod Hashem Leolam, Yismach Hashem Bema'asav, la gloire divine soit pour toujours, Hashem se réjouit Bema'asav de ses actions. Un pasuk dans Tehilim. Et le Ramchal dit, qu'est-ce que c'est que le kavod d'Hachem? Qu'est-ce que c'est que cette gloire divine? Yismach Hachem v'ma'asav, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem se réjouit de ses actions. Alors le Ramchal dit, Ka'asher ha-mekabel marchir et atzmo liot raoui le kabel et hashpa'atosh izbarach. Lorsque le récepteur se qualifie pour être capable de recevoir le flux des bontés divines, alors Hashem Yitbarach samach b'ma'asav, samach b'ma'asav. Il est samach b'ma'asav, il se réjouit de ses actions. Et il envoie un shefa, il envoie un flux de bracha au clan d'Israël. On parle bien sûr d'un flux spirituel. Et d'un autre côté, lorsque le récepteur, le mekabel, lorsque il se disqualifie, Akadosh Baruch Hu est mitztaer, il souffre, si on peut parler de ça, de devoir limiter ce qu'il va donner. Cette façon de gouverner le monde, de façon cachée en quelque sorte, c'est-à-dire en limitant le flux de ce qu'il donne, c'est ça qu'on appelle, dit le Ramchal, les pleurs d'Akadosh Baruch Hu. Le mot pleur, quand il s'applique à Akadosh Baruch Hu, c'est bien entendu un anthropomorphisme. Il n'y a que des mots qui sont inadéquats, comme vous comprenez bien. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mots possibles. Mais on est bien obligé de parler, d'utiliser des mots, des images. Donc il faut toujours se rappeler que ce ne sont que des images. Et donc la traduction ici de pleurs, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu doit donner moins que ce qu'il peut donner, que ce qu'il voudrait donner de façon limitée. C'est ça qu'on appelle pleurer. Cette hanaga, cette façon de... Et donc, il a répondu à Métatron, il lui a répondu, il y a un lieu où l'homme et les créatures en général, même toi, Métatron, vous n'avez pas accès. Il y a un lieu, effectivement, ce lieu du pleur, ce lieu où se décide cette anaga de limitation, vous n'y avez pas accès. Alors, c'est un peu compliqué parce que le tzimtzum de la restriction du flux, il est causé par les hommes. Il est causé par les hommes qui se conduisent mal, qui par conséquent se disqualifient comme récepteurs. Et c'est ça qui fait que Hachem ne peut pas leur donner tout. Il est obligé de leur donner moins que cela, de limiter ce qu'il va donner. Donc, cette contraction, cette limitation, elle est causée par les hommes. Et donc, bien sûr, le pleur, il doit être de leur côté, du côté des hommes. Parce que c'est eux qui, puisque ça représente un chilul Hashem, une profanation du nom divin, puisque Hashem apparaît comme limité dans le monde, puisqu'il donne de façon limitée, donc c'est eux qui doivent pleurer, c'est clair. On comprend bien. Mais, ça c'est ce que Métatron a dit. Les récepteurs doivent pleurer. Mais ce qu'Hachem a répondu, c'est qu'il y a un lieu très haut, plus haut que toi, plus haut que le dévoilement d'Hachem dans le monde. Quelque chose qui mettrait en cause, si vous voulez, qui toucherait à, je n'ose pas dire la divinité elle-même, mais avant le dévoilement. Puisque Métatron, c'est tout en haut du dévoilement. Donc si c'était au-dessus, c'est quelque chose qui est presque interne. Quelque chose qui est interne à la divinité. C'est un lieu, la racine spirituelle de tout ce que Hachem envoie, tout ce que nous recevons. Tout ce que Hu Yitbarach, je ne vais pas dire le nom ici. Ça c'est, comme je vous dis, c'est encore plus haut que ce que Métatron peut concevoir. Ces lieux-là ne sont que des racines spirituelles. C'est là que commence la racine de la contraction. Eh bien, à cet endroit-là, il se passe quelque chose de négatif. C'est-à-dire, d'après ce que nous comprenons, si nous ne recevons pas tout ce qu'Hachem pourrait nous donner, c'est un Chiloul Hachem. Un Chiloul Hachem, c'est un Chiloul du plus haut, en quelque sorte. C'est comme si c'est pas simplement un Chiloul de l'influence d'Hachem dans le monde, c'est un Chiloul d'Hachem lui-même, une profanation Kvayachol d'Hachem lui-même. Et comme il y a effectivement ce défaut-là, ce niveau-là, d'après, justement, c'est toujours d'après nous les récepteurs, eh bien, à cet endroit-là, malgré tout, nous ne pouvons rien y faire. C'est-à-dire, on cause un dommage sur lequel on n'a absolument aucun pouvoir. On ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Et donc, Hachem dit, c'est seulement de mon côté que, à ce niveau-là, que le pleur a un sens, c'est-à-dire ce défaut-là. Donc, c'est quelque chose d'assez... C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme si on disait que... Enfin, c'est ce qu'on dit. On abîme tout, si on veut, et encore plus. C'est-à-dire, on a un impact négatif à un endroit où, par la suite, on n'a plus accès. C'est-à-dire, tu ne peux pas réparer. C'est irréparable, ça. C'est-à-dire qu'on aurait quelque chose, un pouvoir, presque un pouvoir divin, en quelque sorte, d'endommager au niveau du divin. Mais on peut endommager, on ne peut pas réparer. Hachem dit, c'est moi qui pleure. Il y a un défaut, ça. C'est pas toi. Toi, tu ne peux rien faire. Les créatures ne peuvent rien faire à ce niveau-là. Ah, c'est elles qui l'ont fait. On cause un dommage qui nous dépasse complètement. On ne sait plus après comment ça fonctionne, mais ça, c'est nous. C'est nous qui l'avons fait. Laurent Volbé, lui, il développe l'idée que tout homme a un lieu. En fait, toute chose a un lieu, mais en particulier un homme a un lieu qui est son lieu. Son lieu, c'est son lieu de travail dans la Torah. C'est là que se trouve sa Torah. Nous avons tous une part de la Torah qui est spécifique à chacun d'entre nous. Ça, c'est mon lieu dans la Torah. On a des mitzvot, on a des situations à faire, en particulier, c'est aussi mon lieu. Et on ne doit pas s'éloigner de ce lieu-là. Ni plus haut, ni plus bas, ni de côté. Celui qui s'éloigne, justement, de sa Torah, comme Rachid le explique, il s'éloigne de son lieu. Celui qui d'ailleurs va essayer d'aller se promener à des niveaux qui ne sont pas les siens, lui aussi s'éloigne de son lieu. Pas seulement par le bas qu'on s'éloigne de son lieu. Au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a précisé que même les Kohanim, qui par la suite vont être ceux qui vont s'approcher d'Hachem, au maximum. Ils seront dans le Beth Amikdash, et ils vont s'approcher. Et parmi eux, il y aura un Kohen Gadol, qui lui va entrer là où personne d'autre ne peut entrer. Donc on aurait pu penser qu'au moment de Matan Torah, eux aussi vont s'approcher plus d'Hachem. Et Hachem a précisé, « Vegam ha-Kohanim anigashim el Hachem itkadash. » Eux non plus, ils n'ont pas le droit de s'approcher, ils ne peuvent pas monter sur la montagne. Ils doivent être à leur place. Et ils ne peuvent pas se dire, ben, nous on est un peu plus important que les autres et donc on va pouvoir s'élever. Non, chacun reste à la place à laquelle il a été assigné. Et d'une certaine façon, les Chachamim expliquent que la question qui a été posée à Adam Harishon, avec laquelle on avait commencé hier soir, ce Echad qui se lit pour lui à Yeka, on lui demande où il est, et la Gemara elle dit Anna Talibach, où ton cœur a-t-il penché, où ton cœur t'a-t-il entraîné, tu n'es plus à ta place. Fais un pas de côté en quelque sorte. Quelqu'un qui s'enorgueillit aussi, on lui demande à Yeka. Lui aussi, Adam Harishon, il dit tout à coup, où tu es exactement? Tu n'es pas à ta place. Le fait de devoir être à sa place, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Autour du Beit HaMikdash, il y avait une garde qui était assurée en particulier par les Levim. Et un Lévi qui se serait endormi en son tour de garde, on mettait le feu à ses vêtements. Il y avait un surveillant qui mettait le feu à ses vêtements quand il dormait. C'est-à-dire, c'est une génération qui n'est pas à sa place non plus. C'est une génération, si elle n'est pas à sa place, elle ne mérite pas le Beit HaMikdash. Un homme qui n'est pas à sa place, il ne mérite pas la Hashrat Hashrina, il ne mérite pas qu'il y ait présence divine. Il faut être po, il faut être là, ici. Dans les Kinot, le Kalir, il a fait tout un psaume sur po, sur cet ici. Po, c'est aussi la bouche, n'est-ce pas? Po, la graphie est la même que P, que la bouche. La bouche avec laquelle, qui est la caractéristique de l'homme, en fait, savoir où parler, quand parler, et de quoi parler. Et donc, la question revient, donc, comment est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous d'éloignement, en fait, d'Hachem? Alors, en fait, vous l'avez dit qu'il y a en fait une troisième situation. Il y a la situation de proximité, la situation d'éloignement, et il y a une troisième situation. C'est Rabbeinu Yonah qui la qualifie, en fait. Il parle de gens « Asher mikerev libam » que dans leur cœur, il n'y a plus de cheshbon al nafsham. Il faut n'importe quoi. Il n'y a plus de réflexion sur ce qu'ils font. Alors, quand c'est à l'échelle d'un peuple, on dit « Goy oved etzot ». C'est un peuple qui ne sait plus ce qu'il fait. Ceux-là, dit le Rabbeinu Yonah, ils sont au niveau le plus bas qui soit. Il y a encore plus loin que Rachok. Il y a plus loin que loin. C'est au 36e dessous. Il faut dire chez nous, 49e dessous. C'est en l'air complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens s'imaginent qu'ils sont des tzadikim, mais ils sont des rechaim en réalité. Des gens qui peuvent s'imaginer, ils pensent faire des mitzvot, et en vérité c'est une avéra. Chazal dit aussi, « Maase zimri » Mvakshim sera Pinchas. Ils se conduisent comme Zimri et voudraient la récompense qui a été donnée à Pinchas. C'est le plus haut niveau, le plus bas niveau, la plus grande dégradation, si on veut. Le Rav Shmulevitz, dans les Sichot de Moussar, quand Yaakov est arrivé chez Lavan, il avait donc été dépouillé de tout par Eliphaz, le fils d'Esav. Et je vous rappelle juste pour mémoire que la raison pour... Donc Yaakov a pleuré parce qu'il venait, il n'avait pas de cadeau à offrir à Rachel. Il n'avait rien à lui donner, il a pleuré. Alors, le problème, je vous l'avais dit, s'explique dans ce cadre-là. Il explique que Eliphaz, c'était le fils aîné d'Ésav, et il avait reçu l'ordre de son père, quand Yaakov a quitté, après qu'il ait pris les brachot d'Ésav, il a quitté la maison paternelle, avec la bénédiction de son père et de sa mère, pour aller chez Lavan. Et quand Ésav l'a appris, il a donné l'ordre à Eliphaz de poursuivre Yaakov et de le tuer. Seulement, ce qu'il faut savoir, ce qui d'ailleurs rend la personnalité d'Ésav assez complexe, c'est que quand il s'est agi d'envoyer Eliphaz étudier, se former, il l'a envoyé chez son frère, il l'a envoyé chez Yaakov. Ce qui fait d'Eliphaz un bonhomme qui est à la fois l'élève de Yaakov et le fils d'Ésav. Et donc il a un dilemme, désobéir à son père d'un côté, là, en laissant vivre Yaakov, ou alors tuer son oncle, qui est aussi son maître. Et comme vous savez, c'est Yaakov qui a résolu le problème, qui lui a dit, écoute, il y a une Gemara qui dit que Ani Hashuv Kemet, qu'un pauvre est considéré comme mort. Il est de fait économiquement mort. Donc tu peux me dépouiller. Si tu me dépouilles, tu pourras dire à ton père que tu m'as tué. Tu pourras lui dire comment c'est d'ailleurs. On ne voit pas que quand Eliphaz est revenu chez Ésav, Ésav lui ait fait quelques reproches que ce soit, de ne pas avoir planté son couteau dans la gorge de Yaakov, et qu'il lui a dit je l'ai tué économiquement, c'est bon. C'était Ésav lui aussi, il comprend, il connaît aussi la Gemara. Lui aussi, il est d'accord. Il a été d'accord avec la façon de résoudre le problème. Il n'a pas tenu rigueur à son fils. Alors, Rav Shmuelitz dit, ici, on a un cas de figure de quelqu'un qui, en lui, il a le bien et le mal, qui sont en train de lutter. Il y a la lumière et l'obscurité qui sont en train de lutter. Et il dit, il y a cet incident entre, bon, concernant Eliphaz, le mélange de la lumière et de l'obscurité. Il faut bien entendre que Eliphaz, quand il obéit à son père, il s'imagine qu'il est en train de faire une mitzvah. Il pense que c'est une mitzvah d'honorer son père. Donc, la mitzvah qui est une lumière, ner mitzvah, est devenue, elle a été à ce point corrompue, cette lumière, qu'elle est, normalement l'obscurité, ça ne détruit pas la lumière. S'il y a de la lumière dans l'obscurité, ben, au contraire, c'est la lumière qui va illuminer, et qui va détruire une partie ou la totalité de l'obscurité. Or ici, finalement, c'est l'obscurité qui a gagné. C'est-à-dire, cette mitzvah est devenue un ordre de tuer. Et donc, cette lumière est devenue totalement obscure. Et on comprend pourquoi, ça c'est une chose très intéressante, on comprend ainsi pourquoi c'est justement Eliphaz, ce fils-là, qui est le père d'Amalek. Bon. Et ça avait beaucoup de fils. Ils étaient tous pourris. Comment se fait-il que ce soit justement Eliphaz qui donne naissance avec Timna, dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elle est la mère d'Amalek, et qu'elle a essayé à toute force d'entrer dans la famille, qu'elle a accepté d'être la concubine d'Eliphaz, elle n'est même pas une épouse d'Eliphaz. À tel point elle voulait entrer dans la famille, elle est prête de prendre un statut de concubine pourvu qu'elle entre dans la famille. Elle est la mère d'Amalek. Et en fait, il y avait qu'Eliphaz qui avait étudié avec Yaakov qui était un très bon élève, qui avait absorbé complètement l'enseignement de Yaakov, mais en même temps que celui de son père. Il n'y a que lui qui pouvait corrompre à ce point-là l'enseignement de la Torah. Transformer une mitzvah d'honorer son père en obéissance à l'ordre de son père de tuer son maître et son oncle. Cette capacité-là, de tout ordre, ça c'est Amalek. Il faut, pour fabriquer un Amalek, pour fabriquer cette monstruosité, il fallait rien moins qu'Eliphaz. Il fallait en quelque sorte l'enseignement d'Yaakov aussi. Les fils d'Esav, ils auraient pu faire du mal, c'est tout. Mais faire ce qu'Amalek fait, cette attaque-là, pour rien, etc., il n'y a que... C'est, en fait, devenir la négativité d'Israël, se nourrir de la négativité d'Israël, c'est Amalek, il n'y avait qu'Eliphaz qui pouvait le produire. Ça veut dire que, dirait Prem Shulevitz, encore, que l'obscurité n'est pas que l'absence de lumière. C'est au contraire une force gigantesque. Elle a sa propre lumière, si on peut parler comme ça, sa propre énergie. Et elle, en présence d'une source puissante de lumière, elle ne s'éteint pas. Elle ne disparaît pas, pardon, cette obscurité ne disparaît pas. C'est pas quand le Passouk dit d'Hachem qu'il est Yotzer Or, nous disons Yotzer Or, ou Vorech Rocher. C'est aussi un Passouk. Il y a aussi un Yotzer Or, ou Vorech Ra. C'est aussi un Passouk. Cette création du Rocher, cette bria du Rocher, c'est une création. Si ce n'était que l'absence de lumière, on ne dirait pas Boré Rocher. Il n'y a pas de nécessité de créer de l'obscurité. Créer la lumière, l'absence de lumière, serait l'obscurité. Donc la traduction correcte, probablement, n'est pas justement de obscurité, parce que pour nous, l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Mais... Bon, si ce n'était pas déjà occupé par autre chose, je dirais que c'est une lumière noire, mais c'est déjà occupé, ce terme-là, il est déjà occupé. Alors, je ne sais pas comment il faudrait traduire.
L'énergie sombre aujourd'hui.
Hein, l'énergie sombre.
L'énergie sombre aujourd'hui en cosmologie.
Oui, mais c'est déjà un peu occupé, je ne sais pas si... Ouais, c'est un abus de langage, si je ne sais pas si c'est ça. A priori, elle n'est pas négative, je veux dire... Le Ramban utilise aussi cette notion pour expliquer dans la Makkah de Khosher en Égypte. Ce n'était pas du tout l'absence de lumière, mais quelque chose qui a éteint toutes les lumières de l'Égypte. Le Midrash dit que celui qui avait levé la main pour se gratter la tête, ben il restait dans cette position, il ne pouvait plus bouger la main. Il y avait une épaisseur de l'obscurité pendant la plaie des ténèbres qui a figé toutes les choses. Figé, c'est quasiment la mort. Ça explique assez bien pourquoi les Bnei Israël qui ne voulaient pas sortir de Mitzrayim sont morts à ce moment-là. Pas seulement pour les cacher. Hachem aurait pu faire qu'ils meurent pendant les nuits, on n'aurait rien vu. Ils sont morts parce qu'il y avait cette obscurité-là, elle était mortelle en fait. C'est ce que Yirmiya a reproché à sa génération. Yirmiya dit, c'est la génération de la destruction du premier, de la destruction du premier Beit HaMikdash, « Er tomri lo nitmeti, ou acharei ha-be'alim lo alachti. » Ridaker bagay. Dima asit. Comment est-ce que vous pouvez dire, Bnei Israël, nous ne sommes pas rendus impurs, nous ne sommes pas, nous n'avons pas suivi les divinités du Baal, etc. Regardez. Rendez-vous compte de ce que vous avez fait. Sur vos ailes, il y a du sang. Je n'ai pas trouvé n'importe où ailleurs ce sang. Et vous, vous répondez, Kiniketi. Nous sommes propres, je suis propre. Sur la Avoda Zara, sur le sang versé, ils ont trouvé des réponses. Ils ont donné des réponses. Non ? Non, pas du tout. C'est pas nous, nous on n'a rien fait. Quand quelqu'un a fait une faute et qu'il le reconnaît, alors on peut avoir. La rachamim peut s'exercer, la tendresse divine peut s'exercer, pour lui pardonner ou l'aider à obtenir le pardon. Mais celui qui refuse de faire les comptes, celui qui fausse les comptes, la Gemara rapporte. Enfin, c'est un Yalkut plutôt. C'est un Midrash qui rapporte que Rabbi Shimon ben Chalafta dit que Amar HaKadosh Baruch Hu l'Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu a dit à Yerushalayim, il a dit Alma eveti kola mishpatim alalu. Pourquoi je t'ai jugé de cette manière-là? Pourquoi je t'ai sanctionné de cette façon-là? Tout ça. Bishvil she'amar lo chatati. Parce que tu as dit j'ai pas fauté. Je te juge sur le fait que tu dis l'ochatati. C'est pas les fautes. On n'a pas été puni pour les fautes qu'on a commises, mais pour avoir refusé de reconnaître qu'on en avait fait. On dit non, je suis un type, on est des gens bien. Nous n'avons pas d'idée du niveau spirituel auquel était les gens de cette époque, le premier Beit HaMikdash. On n'a pas non plus d'idée de ce qu'était la Kdusha, la sainteté du Beit HaMikdash. Nous, on est dans nos problèmes matériels, dans nos petites histoires. Au point que finalement, le Beit HaMikdash ne nous manque pas tellement parce que on ne sait même pas à quoi il servirait. Mais en fait, il faut déjà travailler. À Tisha B'Av, en fait, c'est un moment pour travailler sur notre éloignement du rapport au Créateur. Lorsqu'on aura pris conscience de cet éloignement-là, on pourra fixer un rendez-vous sur ce rendez-vous, c'est-à-dire une rencontre avec Hachem. C'est déjà le rencontrer que de prendre conscience de l'éloignement qu'on a par rapport à lui. On l'a déjà rencontré, puisqu'on a même mesuré la distance qui nous sépare. Donc, chaque génération, comme on a dit, durant laquelle le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit dans cette génération-là. Celui qui ne ressent pas de souffrance de l'absence du Beit HaMikdash, de la destruction du Beit HaMikdash et de l'exil de la Shrina, de l'exil, du fait qu'il y a, on ne voit pas les choses. D'une certaine façon, il est en train d'empêcher Hachem de lui donner, de donner au Klal Israël. Parce que pour donner au clan d'Israël, il faut que ça s'appelle Ashrat Ashrina, justement. Et donc c'est comme si le Beit HaMikdash était détruit en son temps. Parce que c'est la destruction du Beit HaMikdash dans son cœur. Il ne sait pas ce qu'est réellement la Dvekut comment est-ce qu'on s'approche au plus d'Hachem. Et il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas non plus de désir. En fait, les Chachamim disent que Akadosh Baruch Hu, du moment où le Beit HaMikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a plus que les fameuses Arba Amot Shel Halacha. Il n'y a plus de présence divine, mais la résidence divine, en fait, elle est dans les quatre coudées, c'est-à-dire dans un espace extrêmement restreint, qui est l'espace de respect de la Halacha, l'espace où la Halacha se manifeste, elle est vécue. La halakha, c'est donc le travail que les Bnei Israël, rappelez-vous, la halakha, c'est nous qui la décidons. C'est les Bnei Israël. La Torah, elle a été donnée aux hommes, et comme les Chachamim disent, l'obashamayim, elle n'est plus dans le ciel maintenant. C'est nous. C'est nous qui fixons la halakha. Et donc, en fixant la halakha, nous délimitons un espace dans lequel ce qui s'appelle la volonté d'Hachem va se réaliser. C'est l'espace dans lequel on vit conformément à la volonté d'Hachem. Cette volonté d'Hachem, ce sont les hommes qui, après avoir étudié la Torah, en étudiant la Torah, ont développé la Torah et ont finalement décidé de la façon de se conduire conformément à la Torah. Donc c'est bien une construction humaine, cette halakha. Comme le Beit HaMikdash était une construction humaine sur l'ordre d'Hachem. Donc la halakha, c'est une construction humaine sur l'ordre d'Hachem, c'est-à-dire d'après la Torah, qui est ce qu'Hachem nous a donné comme ordre, si vous voulez, comme mitzvot. C'est ça le domaine qui reste à Hachem dans le monde. C'est-à-dire il y a bien un lieu qui reste malgré tout. Il n'y a plus de Ashrat Ashrina, mais il y a néanmoins ces fameuses Arba Amot Shel Halacha, qui sont justement le domaine où Hachem existe. Existe, c'est-à-dire où il se manifeste. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, qui est la Torah d'Hachem, et qu'on l'étudie comme on doit l'étudier, c'est-à-dire avec la volonté de connaître ce qui s'appelle le Ratzon Hashem, c'est ça vraiment la Torah, c'est ça le dévoilement de la royauté divine dans le monde. La fixation de la halakha étant un achèvement de cette étude. C'est-à-dire, en fait, on va définir un nouveau Beit HaMikdash, si on veut. Mais un Beit HaMikdash qui n'est que de Torah élaborée jusqu'au point de fixer la conduite conformément à la Torah, c'est-à-dire la halakha, et de l'appliquer. Abba Amot Shel Halakha, ce n'est pas seulement la fixation de la halakha, c'est aussi le respect de la halakha. Le monde dans lequel la halakha a été fixée, elle est respectée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tout est maintenant dans la Torah. Tout est maintenant dans l'étude de la Torah. Le Beit HaMikdash, c'est l'étude de la Torah.
C'est l'écran de la décision de
Moshe Rabbeinu. Non, la quoi? Bien sûr qu'il y avait une halakha. C'est Moshe Rabbeinu qui fixait la halakha. On avait directement la halakha. Et lui, il savait, il avait reçu à la fois la halakha et la Torah. Nous maintenant, nous avons le... Bon, ça c'est quand Moshe Rabbeinu nous décidait seul, mais après, c'est une période, c'est la Nevoa. Il y avait un moment où on consultait le Navi. C'est pas le Navi qui disait la halakha, mais éventuellement, il nous dévoilait ce qu'était la halakha. Mais au temps d'Envim, il y avait déjà le Sanhedrin, il y avait déjà des instances des Batei Dinim. On a des Batei Dinim qui décidaient. Donc à ce moment-là, c'était déjà les Batei Dinim qui discutaient et qui décidaient. Donc si on s'occupait vraiment de Torah de cette manière-là, alors le Bach, c'est un des grands décisionnaires, justement, il dit, on deviendrait la Merkava, on deviendrait le chariot, donc on devient en quelque sorte le Beth Amikdash, donc la résidence divine dans le monde. Parce qu'à ce moment-là, la Shrina serait dans le cœur de chacun et donc, elle serait là. Et donc chacun doit considérer qu'il est, d'une certaine manière, le Beth Amikdash. Comment? Avec sa Dvekut Batorah, en collant à la Torah. La Torah, elle est... C'est collé à la Torah, c'est collé à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas coller à Kadosh Baruch Hu d'une autre manière. Cette volonté de coller à Kadosh Baruch Hu, la Torah dit que c'est ça la vie, n'est-ce pas? Atem advekim, atem advekim b'Hashem Elokechem. Chayim kulchem. Vous qui collez à Hashem, vous êtes réellement vivant. La vie, elle est à ce prix-là. On ne peut pas choisir la vie autrement que comme ça. La vie, en tout cas pour l'Ebnei Israël, c'est d'être Davuk Bashem. Alors, bien entendu, on voit très bien qu'on peut même étudier la Torah et ne pas être Davuk Bashem. On peut étudier la Torah, on peut fixer la halakha, on peut faire des maasim tovim, des bonnes actions. On peut être généreux, pratiquer gmilut chassadim. C'est ce qui est dit de ce que faisaient les Bnei Israël au temps du deuxième Beth Amikdash. Et avec tout ça, ils l'ont perdu, le deuxième Beth Amikdash. Avec tout ça. Donc, si on doit dire ce qu'il faut faire, on peut pas. Voilà, ils ont tout fait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Au niveau de l'action, ils ont tout fait. Et ils ont perdu le Beth Amikdash. Ils l'ont fait parce que... ils ont tout fait, et néanmoins, ils le faisaient avec cette haine gratuite. Avec cette haine de l'autre. Avec Minut Rassadim, avec la haine de l'autre, comment c'est possible? Comment c'est possible de faire Gminut Chassadim avec la haine de l'autre? Comment on peut être généreux à l'égard de quelqu'un d'autre en le haïssant? Comment quelqu'un avait besoin, il y avait un malade, on allait, on lui apportait à manger. Il y avait un pauvre, on lui donnait de quoi vivre. Où est la haine gratuite ici? Où est la haine? C'est donc possible de faire les deux à la fois. Il croyait qu'il faisait une mitzvah, comme Eliphaz croyait qu'il faisait une mitzvah en obéissant à son père. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient réussi à faire de la mitzvah quelque chose de négatif, dont l'action, elle est là. Il obéit à son père, Eliphaz. Mais bon, la différence entre Eliphaz c'est que, et eux, c'est que Eliphaz, il allait tuer quelqu'un, son oncle, son maître, qui n'était pas passible de mort, qui n'avait pas le droit de tuer. Alors que eux, ce qu'ils faisaient, c'était positif. Étudier la Torah, c'est positif. Faire du bien autour de soi, c'est positif. Comment c'est possible de faire ça avec de la haine gratuite? Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, je veux dire? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on agit comme ça, avec de la haine gratuite? En d'autres termes, ça veut dire qu'en eux, ils étaient arrivés à dissocier les choses. J'ai de la haine, mais les gestes y sont. Les gestes sont là. Essayons quand même de nous représenter celui qui est en train de... C'est plus facile à comprendre. Il pratique Milut Chassadim, il est en train de faire du bien à quelqu'un, il aide un pauvre, il apporte à manger à un malade. Alors, on ne va pas aller jusque-là, mais... Je ne sais pas si je vais acheter ça. Merci. Juste ça pour l'instant. Un jour, quelqu'un a dû apporter à manger à un grand maître du Moussar, à Bleb Lopian, qui était un grand vieillard et très gravement malade. Et celui qui devait apporter à manger, c'était le matin. Il est allé faire sa tefila, puis ensuite il a apporté à manger. Et alors, Abdel lui a expliqué que c'est pas comme ça. Quand on doit apporter à manger à un malade, on apporte d'abord à manger au malade, et ensuite on va faire sa tefila. La piété, il faut faire la tefila. Cette espèce de piété bête et méchante, en quelque sorte, où on ne réfléchit pas. Que le malade, si on t'a dit qu'il fallait lui apporter à manger le matin, c'est le matin. C'est quand il... Tu ne sais pas exactement quand il en aura besoin, donc. Tu es requis, c'est ça de la mitzvah. Donc tu iras prier après. Alors il y a tout un chapitre, les Baal et Moussar, ils travaillent beaucoup contre ce qui s'appelle, il n'y a pas de mot vraiment en français, il s'appelle la Frommkeit, c'est construit sur un mot qui veut dire piété en allemand, et en yiddish, mais c'est toujours une piété bête et méchante, c'est-à-dire la piété sans réflexion. Alors bon, ça c'est la piété sans réflexion, c'est déjà grave, ça veut dire qu'en fait, cette piété, elle est complètement bête, elle fait prendre des mitzvot pour des averot pour des mitzvot. Il était en train de faire une avera à faire sa prière à ce moment-là. C'est pas maintenant qu'il fallait la faire. C'est requis de faire autre chose. C'est comme quelqu'un qui, l'exemple magnifique, c'est le chassid Choté. Il voit une femme qui est en train de se noyer, mais il peut pas aller la sauver parce qu'il faudrait toucher une femme, il peut pas. Bon, elle va mourir. La Gemara dit, ça c'est un chassid choté, c'est une piété imbécile. Donc les gens ne savent pas toujours faire la part des choses, et très souvent, effectivement, beaucoup de gens sont pris par leur piété. Mais eux, c'est encore pire, c'est pas simplement une piété imbécile. C'est pas que la piété est une mauvaise chose en elle-même, mais quand elle est imbécile, elle est mauvaise. Mais ils sont quand même arrivés à dissocier la haine des gestes. C'est-à-dire que les gestes, ils les faisaient complètement machinalement, sans du tout penser à ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'il était resté une mécanique, en quelque sorte, de donner, d'aller voir le malade, etc. Mais un peu comme quelqu'un qui irait voir le malade et qui lui annoncerait, là, je suis venu te voir, je fais ma mitzvah de Bikur Cholim. Fais ma mitzvah d'aller voir les malades. C'était devenu l'objet de ma mitzvah. D'accord. On ne fait pas beaucoup mieux pour enfoncer quelqu'un. D'accord. Vous allez voir un endeuillé, vous allez voir un malade, et vous le chosifiez. Il est la chose avec laquelle vous faites votre mitzvah. À ce moment-là, on peut le haïr, on peut haïr cette chose. C'est la chose avec laquelle... Je ne le vois pas, on ne voit pas la personne. On le voit comme l'objet avec lequel je veux faire ma mitzvah. À ce moment-là, on peut haïr cette personne. On peut aussi la haïr. Elle est devenue l'objet. C'est un objet. La personne en elle-même, je la hais. Maintenant, il est par ailleurs un objet avec lequel je fais la mitzvah. Donc on peut faire les mitzvot de façon complètement machinale. Quand on les fait machinalement, on n'est pas à ce qu'on fait. Comme quand on fait machinalement les choses, on peut penser à autre chose, on peut être à toute autre chose en esprit. Et eux, toute la Torah qu'ils étudiaient, toutes les mitzvot qu'ils faisaient étaient de cet ordre-là. Et donc, ils ont complètement détruit le Beth Amikdash. On détruit le Beth Amikdash parce que, en fait, ils ont fourvoyé d'abord complètement les mitzvot et l'étude de la Torah. C'est ça la destruction du Beth Amikdash d'en haut. C'est pas obligatoirement de ne pas faire les mitzvot. C'est de les faire en leur enlevant tout caractère de mitzvah. Dans une mitzvah, il y a trois éléments. Il y a un mitzvé, il y a celui qui donne l'ordre. Il faut reconnaître que cet ordre vient d'Hachem. Sinon, ce n'est plus une mitzvah. Il y a celui qui l'a fait. C'est-à-dire savoir que je suis requis de faire cette mitzvah. Et puis, il y a le contenu de la mitzvah. Et si les trois éléments ne sont pas là, c'est-à-dire le contenu de la mitzvah, c'est, dans Bikur Cholim, c'est tu dois aller faire du bien à quelqu'un. Tu dois reconnaître cette personne, tu dois... Elle est dépressive, il faut lui remonter le moral. Mais si tu viens et tu la chosifies, elle n'a qu'un seul souci, c'est que tu partes le plus vite possible. Quand est-ce qu'il va enfin déménager? Il va partir, au moins. On enfonce complètement la personne en faisant cette mitzvah. Vous comprenez bien que ce n'est pas une mitzvah. Et au contraire, c'est un dévoiement de la mitzvah. Et c'est ça, détruire le Beth Amikdash d'en haut. Je crois qu'il faut, malgré la montre, il faut s'arrêter. On continuera ce que j'ai dit hier soir après. Mais... il y a encore des volontés. Mmh.